Shieldcast présente Plongée profonde, thème du jour, géopolitique, avec Alex et Sacha. Bonne écoute.
Et ce qui m'a frappé dans le live du Guardian, c'est la séquence. Une heure après le poste Trump, les défenses anti-aériennes koweïtiennes répondent à des attaques hostiles, sirènes à Bahreïn. Donc l'Iran ne frappe plus seulement Israël ou des bases américaines isolées, il tape directement sur des États du Golfe qui hébergent des installations américaines. C'est une rupture de seuil, non ?
On reprend là où on s'était quitté vendredi sur le dossier iranien, mais le week-end a fait basculer quelque chose. Samedi, frappe américaine sur plusieurs cibles en Iran, riposte iranienne en représailles, et surtout cette phrase de Trump sur Truth Social. Si on est forcé de finir le travail, la République islamique d'Iran n'existera plus. On n'est plus dans la grammaire de la dissuasion classique, on est dans la menace d'anéantissement explicite.
Sauf que côté américain, J.D. Vance dit à Bill Maher, je cite, « L'Amérique gagne dans tous les cas. Si on a un deal, super. Si on n'a pas de deal, leur programme nucléaire est détruit, ils sont affaiblis. » Cette rhétorique de victoire totale, c'est pas un peu le problème. Ça ne laisse aucune rampe de sortie diplomatique à l'Iran.
C'est une rupture majeure. Jusqu'ici, la doctrine iranienne, depuis l'assassinat de Soleimani en 2020, c'était la frappe calibrée, signalée à l'avance, conçue pour ne pas tuer d'Américains et permettre la désescalade. Là, on a des missiles et des drones sur Manama et sur Kuwait City, deux capitales. Et surtout, le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, est à Bagdad et appelle à un cadre de sécurité avec les pays du Golfe. Après les avoir frappés. C'est contradictoire en apparence, mais ça dit quelque chose. Téhéran veut imposer un rapport de force avant la négociation.
Sur le programme nucléaire détruit, on a des éléments solides. Parce que Vance le dit comme un acquis, mais après les frappes initiales, il y avait déjà du débat sur l'évaluation des dégâts à Fordo et Natanz.
C'est précisément le problème stratégique. Quand tu cadres publiquement la situation en « we win either way », tu retires à l'adversaire toute possibilité de capituler sans humiliation. Et un régime théocratique qui se sent acculé à l'humiliation totale, historiquement, ça escalade. Le cessez-le-feu dont parlent les deux camps, chacun accusant l'autre de le violer, c'est devenu une fiction utile pour continuer à frapper en se disant défensif.
Parlons du Golfe, justement. Bahreïn, ça abrite la veuve flotte américaine. Koweït, c'est Camp Arif Jan, Ali Al-Salem. Ce ne sont pas des cibles symboliques, ce sont les nœuds logistiques de toute la projection américaine dans la région. Si l'Iran frappe ça frontalement, soit il assume une guerre régionale, soit il calcule que Trump ne veut pas y aller jusqu'au bout.
Le Guardian ne tranche pas, et personne ne tranche vraiment. Les évaluations du renseignement américain qui avait fuité plus tôt parlaient d'un retard de quelques mois, pas d'une destruction. La position de l'administration Trump, c'est de marteler « destroyed » jusqu'à ce que ça devienne réalité performative. Mais l'IRGC sur SNN TV a annoncé qu'il répondra avec plus de force à chaque coup. Donc la spirale est enclenchée et la question du nucléaire devient presque secondaire face à la dynamique de représailles.
Et les monarchies du Golfe, justement, qu'est-ce qu'elles font ? Parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont passé les trois dernières années à se rapprocher de Téhéran via la médiation chinoise de 2023. Là, leurs voisins se prennent des missiles, mais on n'entend pas grand-chose de Riyad.
Et c'est là que le pari iranien est intéressant à analyser. Trump a une base politique qui inclut un courant isolationniste. Le mouvement MAGA n'est pas unanime sur une guerre longue au Moyen-Orient. Tucker Carlson, une partie de la droite trumpiste, ont dit publiquement leur opposition à une intervention prolongée. Téhéran le sait. Donc en frappant les monarchies du Golfe, l'Iran teste deux choses. La solidarité réelle de Washington avec ses clients arabes, les capacités de Trump à tenir une guerre level impopulaire à droite chez lui.
Ça c'est intéressant. Le Pakistan, puissance nucléaire sunnite, médiateur entre Washington et Téhéran, c'est un rôle qu'on attendrait plutôt d'Oman ou du Qatar, qui ont toujours fait ça historiquement.
Silence très éloquent. La condamnation est venue de la Jordanie, des Émirats, de l'Italie via Tajani. Mais l'Arabie Saoudite est dans une position impossible. Elle ne peut pas applaudir des frappes américaines qui menacent de déstabiliser toute la région, ni soutenir l'Iran qui frappe ses voisins du Conseil de coopération du Golfe. MBS joue la montre. Et il y a un autre élément que le Guardian mentionne en passant mais qui mérite d'être souligné. Le Pakistan, selon l'article sur les frappes en Afghanistan, est en train de médier entre les États-Unis et l'Iran.
Sur la Chine, justement, 80 à 90% du pétrole iranien part vers la Chine. Si le détroit d'Hormuz se ferme ou si l'Iran disparaît comme producteur, c'est Pékin qui encaisse en premier. On n'a pas vu de réaction forte.
Oman est probablement toujours dans la boucle en coulisses. Mais le fait qu'Islamabad soit mis en avant publiquement, c'est nouveau. Et ça arrive au moment où le Pakistan mène lui-même des frappes meurtrières en Afghanistan. Donc on a un médiateur qui est en guerre ouverte avec son voisin. Ça dit beaucoup de la pénurie d'intermédiaires crédibles. L'Europe est hors jeu, la Russie est embourbée en Ukraine, la Chine reste prudente.
Revenons à la phrase de Trump. L'Iran n'existera plus. Sur le plan du droit international, c'est une menace d'élimination d'un État souverain par son chef d'État, postée sur un réseau social. Comment ça se traite, ça ?
Pékin a appelé à la désescalade en termes très génériques. La stratégie chinoise face à cette crise, c'est de ne surtout pas s'exposer. Xi calcule probablement que plus les États-Unis s'enlisent au Moyen-Orient, plus la pression sur Taïwan se relâche. Cyniquement, une guerre Iran-USA qui dure, ça arrange Pékin sur le plan stratégique global, même si ça coûte sur le plan énergétique à court terme.
Du coup, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours ? Le sommet de l'OTAN à Ankara les 7 et 8 juillet, ça arrive vite.
Ça ne se traite pas. C'est ça la nouveauté de fond. Depuis 1945, la Charte des Nations Unies interdit la menace de la force, pas seulement son emploi. Un président américain qui menace publiquement de faire disparaître un État membre de l'ONU, ça aurait déclenché en d'autres temps des résolutions, des condamnations, au moins une convocation du Conseil de sécurité. Là, silence relatif. L'ordre juridique international post-1945 est en train de se dissoudre sous nos yeux, et à l'accélérateur.
Et le prix du baril, accessoirement, parce que là, on est à un seuil où ça commence à mordre les économies européennes.
Trois choses. 1. Est-ce que l'Iran continue à frapper des cibles dans le Golfe, ou est-ce que les attaques de samedi étaient un coup unique de signalisation ? 2. La position que prendra Trump à Ankara. Est-ce qu'il essaye d'embarquer l'OTAN dans la séquence iranienne, ou est-ce qu'il maintient ça comme une affaire bilatérale américano-israélo-iranienne ? Et 3. La santé politique interne du régime iranien. Quand Araghchi parle de halte complète des négociations, c'est aussi un message au dur de Téhéran pour les contenir. Le baril et le détroit d'Hormuz. Tant qu'Hormuz reste ouvert, on est dans une crise gérable économiquement. Le jour où l'Iran le ferme effectivement, et pas juste symboliquement, on change de monde. On en reparle demain.